Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, on est déjà vendredi et tous les vendredis, ce sont les auteurs de bandes dessinées qui font le réveil culturel. Aujourd'hui, mon invité est Chloé Cruchaudet pour la sortie de son album « La croisade des innocents » où il est question d'initiation à la vie, de religion et d'un fait historique des plus insolites. Dans la France du XIIIe siècle, des enfants miséreux décident d'aller à Jérusalem pour libérer la ville sainte. La croisade des enfants a-t-elle réellement eu lieu ou s'agit-il d'une légende ? Réponse dans un tout petit instant. Également présente avec nous ce matin, Sonia Deschamps du magazine Casemate qui dressera le portrait de notre invité, Chloé Cruchaudet.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Chloé Cruchaudet.
Bonjour.
Alors après Mauvais Genre, on se souvient, c'est l'histoire vraie du jeune Paul qui pour échapper aux tranchées de 14 devient Suzanne. Il devient Suzanne à la folie, à la mort d'ailleurs. Eh ben vous revenez avec une bande dessinée tout aussi remuante, La Croisade des Innocents, éditée par Soleil. Et vous racontez la virée dans la France du XIIIe siècle d'une bande d'enfants décidés d'aller libérer Jérusalem. Alors est-ce que c'est un fait avéré ou une légende entretenue? Je vous pose cette question, Chloé Cruchaudet, tout en vous précisant que vendredi prochain sur France Culture, c'est dans l'émission d'Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l'Histoire, que des historiens vont se pencher sur votre bande dessinée.
Alors, moi-même, je pourrais pas avoir une réponse très, très tranchée sur le sujet. Effectivement, il y a des historiens qui remettent en cause l'existence même de cette croisade. Selon d'autres sources, on a vraiment, quelques éléments très, très, très maigres, finalement, sur cette bande d'enfants qui serait partie du nord de la France pour arriver jusqu'à Marseille où leur voyage s'est arrêté, avec l'espoir, donc, de partir libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. Donc, on a quelques témoignages d'un moine en particulier qui a fait des écrits 50 ans plus tard, où il a expliqué qu'une bande de voyous avait été vue en train de piller sous prétexte de croisade, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, les sources sont très, très, très minces. Alors, c'était un bonheur pour moi, parce que j'ai pu imaginer plein de choses.
Et comment vous avez découvert justement cette histoire ?
Alors, c'était il y a très très longtemps dans un magazine d'histoire, dont je vous avoue que j'ai même oublié le nom, il y avait un très mince article qui évoquait voilà cette petite anecdote en expliquant que les sources de documentation étaient très 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 minces, mais ça j'y ai repensé au fil des années, j'ai pris quelques notes, j'ai accumulé de la documentation et puis voilà, il y a quelques années je me suis lancé parce que ça faisait vraiment trop de temps que ça me trottait dans la tête cette histoire-là.
À quel moment vous décidez justement de vous emparer de ce sujet ou de cette brèche de l'histoire ? Pour construire cette fiction, parce qu'il s'agit bien sûr d'une fiction, la croisade des innocents.
Pour être honnête, j'ai fait cette analyse-là a posteriori, mais il se trouve que je me suis lancée là-dedans en 2016, après en fait les événements qui avaient eu à Paris, avec les attentats, etc. Et je pense que j'avais, comme beaucoup de personnes à ce moment-là, une espèce de gros questionnement, un espèce de grand vide comme ça sur comment est-ce qu'on pouvait commettre des atrocités au nom de la foi et au nom d'une idéologie qui pouvait être très belle à la base, quoi. Donc je pense que c'est quand même ça qui a été un petit peu le moteur, même si je l'ai constaté après.
En tout cas, c'est très bien partagé parce que effectivement, Chloé Cruchaudet en pense très vite au beau milieu du récit, en pense tout de suite à ces jeunes d'aujourd'hui qui vont faire le djihad quelque part en Syrie ou en Irak. Et même si vous ne sortez pas du cadre, hein, ça reste vraiment la France du XIIIe siècle, ça reste vraiment les croisades, on ne pense qu'à eux. On voit ça tout de suite.
Bon, quand même, de manière globale, j'ai des... Vis-à-vis de toutes les religions en règle générale, J'ai un peu des comptes à régler. Donc, je pense que cette histoire-là m'intéressait parce que ça, il y avait le terreau pour essayer d'analyser comment est-ce que, à partir de d'une petite histoire, d'un mythe, on pouvait manipuler des gens, construire.
Comment la religion, on peut le dire, manipule les gens.
Tout à fait. Ouais. Et après, c'est vraiment une mise en abîme, c'est-à-dire que eux, c'est la foi entre guillemets qui les fait partir, mais eux-mêmes commencent à construire leur propre religion finalement avec ce petit théâtre de marionnettes qui leur permet de survivre, où ils racontent quelque chose qui normalement est censé avoir eu lieu, mais pour avoir
vivre,
une audience plus forte, ils brodent un petit peu.
Pour ne pas dire ils mentent.
Voilà. Et je pense que ça semble vraisemblable que ça ait pu se passer comme ça dans la construction de la chrétienté, par exemple, que les apôtres aient pu un petit peu broder, manipuler, etc., selon leurs propres intérêts.
Mais ça reste au niveau de la narration comme si c'était un conte, hein. C'est-à-dire que vous ne réglez pas vos comptes d'une manière frontale avec ces jeunes qui vont être complètement pris par la religion, ou du moins par l'enseignement qu'on leur faisait de la religion à l'époque.
Non, je les juge pas dans le sens où je me mets à leur place, et je pense que l'endoctrinement est très facile, surtout avec des cerveaux malléables, jeunes.
Et pauvres.
Et pauvres. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un contexte où ils sont livrés à eux-mêmes, ils rejettent le monde des adultes. Donc il y a que finalement leurs propres erreurs, leur expérience, qui peuvent leur apprendre des choses. Donc voilà, ça m'a semblé vraiment crédible que n'importe lequel d'entre nous, à leur âge, et puis se lancer là-dedans, et face aux duretés du chemin, la faim, le froid, etc., en venir à des extrémités qui étaient totalement contraires à leur idéologie de départ.
Et pourtant, cette croisade, ça pouvait représenter pour eux un idéal, un objectif à atteindre, une manière aussi de s'émanciper du milieu d'où ils viennent. Ça reste quand même aussi un voyage initiatique.
Oui, c'est... Je pense que j'ai fait comprendre que le contexte faisait que ils n'avaient pas le choix, quoi. Il fallait qu'ils partent. Leur situation était trop dure, trop précaire. Parfois, c'est presque un réflexe de survie, effectivement, la croyance. C'est ça qui nous permet de bouger, d'évoluer et puis de partir ailleurs. Mais ça, par contre, il faut en être conscient que ce ne sont que des histoires et avoir le sens critique et pas se manipuler, surtout par les histoires des autres. Moi-même, j'ai des croyances complètement farfelues, mais ce sont les miennes. Il faut faire attention à ne pas, être trop comme des éponges, comme on peut l'être quand on est enfant, et prendre tout au pied de la lettre.
La croisade des innocents, c'est donc dans la série Noctambule de Soleil. Chloé Cruchaudet, si on devait parler des personnages, si on parlait du personnage principal, Cola, comment on imagine des personnages une fois qu'on a à peu près l'idée? C'est-à-dire l'idée, c'était de revenir sur ce fait historique plus ou moins avéré, et après construire une fiction, donc construire des personnages. Comment vous les avez imaginés avant de leur donner vie par votre dessin?
Je pense qu'on ne part jamais totalement de rien. Et moi, pour essayer de construire quelque chose qui soit crédible, qui soit vraisemblable, tout simplement, en fait, je me suis basée sur Jésus lui-même et ses apôtres. C'est-à-dire que j'ai considéré que Cola devenait une sorte de messie, et j'ai imaginé donc ses camarades tout autour comme étant des incarnations, voilà, des apôtres, Paul, etc. Et je me suis renseignée sur leurs caractéristiques, et j'ai calqué un petit peu ces caractères-là sur ses enfants. Après, j'ai fait en sorte que ça soit fait de manière, j'espère, pas trop lourd, le lecteur s'en rend pas forcément compte, mais ça m'a semblé crédible en tout cas que, comme souvent dans les prises de pouvoir, finalement le messie ou l'homme principal, souvent c'est un homme de paille, un petit peu poussé, manipulé par tous ceux qui sont autour. Donc au début, ce personnage-là, Cola, moi je l'ai imaginé comme un petit peu étant embrigadé malgré lui dans cette histoire-là. Et ça arrive souvent que finalement on croit à ses propres mensonges. Au bout d'un moment, il se prend tellement au jeu que il devient parfait dans le personnage que ses amis lui ont construit finalement. Et aussi parce que je pense que c'est un réflexe.
Et pourtant, ils le savent que c'est un miracle complètement inventé par eux-mêmes.
Oui, mais c'est tout à fait humain qu'au bout d'un moment, on ne puisse pas se désavouer parce que toute notre vie est construite sur un mensonge, un mythe, et ça serait trop dur de le remettre en cause. Donc finalement, ça arrive aussi avec des histoires de gens qui ont menti à leur famille, qui ont menti à tout le monde, etc. C'est trop dur de revenir en arrière. Donc lui, il va vraiment jusqu'au bout, quoi.
Est-ce que vous avez travaillé avec autour de vous beaucoup de documentation pour trouver d'abord la façon de parler des enfants de cette époque pour faire pour représenter la France médiévale du XIIIe siècle, Chloé Cruchaudet?
Au niveau du langage, donc ça serait impossible de reproduire de manière authentique parce que c'est absolument incompréhensible le français du XIIIe siècle. J'ai quand même introduit le fait qu'il y avait tout un tas de patois, entre guillemets, de chaque région, qui faisait que justement ce groupe-là devenait incontrôlable, parce qu'au fur et à mesure, les enfants de différents coins arrivent et ça devient une espèce de tour de Babel où on n'arrive plus à se comprendre parce que le langage est très différent. Donc voilà, moi j'ai pas la prétention que ça soit le vocabulaire de gens du Moyen-Âge. Je me suis emparée de cette histoire avec mon registre de langage à moi de personnes du 21e siècle. J'espère juste que ça dérange pas trop, et j'ai trouvé que c'était crédible que des enfants en roue libre, sans adultes, n'aient pas de filtre au niveau de la censure de leur langage, et donc qu'ils soient extrêmement orduriers, et que voilà, il n'y ait pas de limite à ça. Puis en plus, je trouve ça très amusant de représenter des petits enfants mignons qui disent des horreurs. Voilà, j'aime bien les contrastes, en fait.
Pour tout ce qui est de décor, puisque vous leur faites traverser une année, les quatre saisons et la France, tout un pays.
Oui, du coup, je me suis dit qu'à cette époque-là, on avait quand même une relation au temps qui était, bon, déjà très liée à la religion et puis tout simplement très liée à la nature, quoi, à la saison. Et j'ai voulu aussi que ça soit un cycle. On commence en hiver, on revient en hiver. Il y avait quand même cette idée-là au Moyen-Âge que tout était un éternel recommencement, que le fils faisait le travail de son père, etc. Donc, voilà, j'ai construit ça un petit peu comme un cycle, et je dévoile pas dans le détail, mais effectivement, quand on arrive à la fin, on a vraiment la sensation que ça va recommencer.
Et tout ça sans utiliser les couleurs, hein. Vous avez décidé d'utiliser le noir et blanc, le lavis, pourquoi?
J'ai vraiment pris le parti de mettre de côté la réalité historique, parce que j'ai cru comprendre qu'en tout cas au Moyen-Âge, on vivait dans un monde plutôt coloré, c'est-à-dire que les façades des églises pouvaient être complètement chatoyantes, les sculptures étaient colorées. Je pense que les vêtements des paysans aussi, ils maîtrisaient des techniques de teinture qui faisaient que c'était pas forcément un camailleux de beige, etc. Donc on vivait dans un monde coloré, mais moi me suis plus basée sur les émotions, c'est-à-dire que j'ai attribué de manière très subjective une séquence, une émotion et une teinte. Par exemple, pour moi, le vert à menthe, ça correspond à un sentiment d'amertume. Et voilà, j'ai réalisé chaque séquence de cette manière-là.
En utilisant quoi ?
C'est un mélange d'ultra-modernité, c'est-à-dire dessin à la palette graphique, couleur à l'ordinateur, et en même temps de choses ultra-brutes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décors qui sont réalisés avec des bâtons, des bouts de paille trempés dans de l'encre pour donner un petit peu un côté sale, brut, que j'arrivais pas à retranscrire à l'ordinateur. Donc c'est un mélange des deux pour obtenir ce que j'avais en tête.
Et tout ce qui est vraiment couleur, ça renvoie quand même à la croyance, aux représentations religieuses dans la croisade des innocents.
Alors c'est vrai que les petits moments de couleur, c'est les moments où il y a le choc de rentrer dans une église, où il y a les enluminures, il y a le Christ qui apparaît dans leur fantasme, parce que pour moi, leur imaginaire était vraiment quand même beaucoup constitué de ces éléments religieux, et on est dans leur fantasme, un peu dans leur tête. C'est pour ça qu'il y a ces explosions de couleurs à ces moments-là.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
des enfants s'en vont en croisade. C'est la croisade des innocents de Chloé Cruchaudet. Dans la France du XIIIe siècle, cette bande dessinée est dans la collection Noctambule aux éditions Soleil. Chloé Cruchaudet, vous êtes née à Lyon en 1976. Vous avez fait d'abord des études d'architecture avant de passer aux arts graphiques, toujours à Lyon, et après de passer à l'animation. Vous avez fait l'école des Gobelins, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai jamais trop quitté la bande dessinée, dans le sens où même quand je faisais de l'animation, tous les week-ends, je faisais des projets qui étaient tous refusés. Mais, enfin, j'ai toujours gardé cette ambition-là, en fait, de faire des albums. Ça a pris du temps.
Vous êtes un auteur ou une auteure? Qu'est-ce que vous préférez que je dise, Chloé Cruchaudet? Je dirais pas autrice, hein, je suis désolé, mais ça sera...
C'est vrai, c'est dommage, parce que...
Vous dites autrice.
Alors moi, je trouve... Ça m'a écorché les oreilles, autrice, et en réalité, je pense que c'est le mot juste, parce que c'est le mot qui existait, je crois que c'est au XVIIIe siècle, ce mot-là était présent dans les dictionnaires, etc., et il a été supprimé de la langue française, comme plein d'autres métiers qui étaient féminisés. C'est juste une question d'habitude, je vous assure que on s'y fait au bout d'un moment à autrice.
Pour résumer un peu toute votre carrière en bande dessinée, Sonia Deschamps est avec nous ce matin.
Bonjour.
Bonjour Sonia, du magazine Casemate, qu'on retrouve une fois par mois dans le réveil culturel du vendredi consacré à la bande dessinée. C'est à vous Sonia.
Alors en préparant ce portrait, Chloé, j'ai appris des choses assez fondamentales à votre sujet. J'ai par exemple appris qu'à Montreuil, vous aimiez il y a quelques années jouer au ping-pong dans un parc à côté de votre atelier. Mieux, j'ai ouï dire que vous avez fichu quelques tollés à vos camarades de jeu, en tout cas à Mathias Lehmann, bonne maîtrise sur les effets m'a-t-il dit, et à Thomas Gosselin. Mais ces défaites contre vous, ce ne sont pas les seules choses, de se souvient Thomas Gosselin, de l'époque où vous partagiez cet atelier montreuillois, l'atelier Gâteau Giallo. L'auteur dévisé se souvient que vous prêtiez une attention particulière à la technique employée pour chacun de vos projets. Je le cite, « Alors qu'à un moment donné, dans une carrière, on se fixe souvent sur une méthode dès que ça fonctionne, Chloé continue à expérimenter des techniques et des matières, cherchant toujours la meilleure façon d'approcher un projet, que ce soit pour un livre pour enfants » ou pour des illustrations érotiques. Des illustrations érotiques, vous en avez réalisé pour le livre « L'herbier sauvage ». De vous, le scénariste Fabien Vellman retient, je le cite, « un très grand professionnalisme allié à une incroyable modestie, vu son talent. Chloé est assez pudique, m'a-t-il aussi dit. Assez discrète, m'a confirmé Mathias Lehmann, l'auteur de La Favorite, grosse bosseuse et concentrée quand elle bosse. Discrète, oui. J'ai pourtant réussi, grâce à Benjamin Reiner, à découvrir des choses un peu plus intimes à votre sujet, Chloé. Vous avez connu l'auteur du Grand Méchant Renard sur la production du film Ernest et Célestine, et j'ai appris que vous partagez une passion pour les chiens. Une passion, je cite Benjamin, qui nous embarque dans des conversations enflammées sur notre amour commun des canidés. Elle a un amour notable pour les gros chiens poilus qui puent, probablement notre seul point discordant sur ce sujet. C'est d'ailleurs un des points que j'admire le plus chez elle, c'est son côté très nature et sincère. Je l'ai découvert alors qu'on discutait de jeux qu'on faisait enfant. Au début, on était plutôt raccord, on parlait de l'épervier, le facteur, chat perché et autres consorts. Je l'ai perdue quand elle a évoqué les batailles de bouse de vache, jeu auquel, je dois l'admettre, je n'ai jamais joué, mais qu'elle semblait maîtriser particulièrement dans son enfance, vu l'enthousiasme qu'elle avait à expliquer les lois aérodynamiques qui régissent l'envol de tels projectiles. Je n'ai pas amené le nécessaire pour tester ses compétences dans le studio. Désolé, Toufik.
Ouais, mais on est loin de l'œuvre.
Donc,
comme
plutôt
quoi, elle a une
à votre
cachée.
Travail, Chloé. Bah,
enfin.
Avant la croisade des innocents, avant l'herbier sauvage, vous avez publié d'autres remarquables albums, parmi eux Groenland Manhattan, prix René Goscinny en 2008, et la série Ida, publiée entre 2009 et 2013. À cette époque, vous avez aussi participé à l'aventure des autres gens, une série qui a réuni beaucoup de dessinateurs autour du scénariste Thomas Cadden. Chloé, c'est un peu d'autres gens et une de mes images préférées sur plus de 250 épisodes, c'est ce qu'il m'a confié. Chloé, c'est aussi un rendez-vous manqué pour une bande dessinée, mais surtout une artiste formidable. Ce que je sais, c'est ce que je vois, la force de son dessin et la beauté de son trait. Des qualités reconnues par un large public en 2013 année de sortie de Mauvais Genre, prix Landerneau, prix coup de cœur du festival Quai des Bulles, prix de la critique de la CBD, l'association des critiques et des journalistes de bande dessinée, et prix du public cultural lors du festival d'Angoulême 2014. Ce qui m'avait marqué à la lecture de cet album, c'était ce qui s'en dégageait, son humanité, l'impression de réellement voir les gens exister, bouger, danser. Et j'étais confortée dans mon ressenti par Philippe Thirault, avec qui vous avez publié il y a une dizaine d'années deux histoires courtes chez Delcourt, réunies virtuellement, vous ne vous êtes jamais parlé, par l'éditrice Elisabeth Haroche. Dans Le combat des justes, m'a-t-il raconté, le fils du couple de justes auquel elle a redonné vie a dit avoir été bouleversé par la représentation de ses parents. Il avait l'impression de les revoir. Je pense que c'est grâce à toute la sensibilité, à l'humanité de Chloé, qui ne se contente pas de dessiner divinement bien. ressentir, interpréter, transmettre et émouvoir. C'est ce que vous continuez à faire, Chloé, notamment avec l'équipe du festival Lyon BD, puisque oui, vous êtes à nouveau presque lyonnaise, à la grande joie de Sandrine Deloffre, l'autrice des hilarantes cartes de désaveu, coordinatrice générale du festival. Ensemble, vous travaillez sur un projet intitulé « Les belles personnes ». Vous avez invité les habitants de Lyon à vous envoyer des portraits écrits de héros du quotidien et vous en faites des planches de bande dessinée. Sandrine regarde avec un certain émerveillement votre travail. Voilà ce qu'elle m'a dit. Chloé lit les récits et je pense qu'elle dessine exactement ce qu'elle voit quand elle les lit. C'est hyper impressionnant de l'avoir transformé quelques lignes de texte en planches de BD. Elle prête de l'attention à chacun des textes qu'on reçoit, même si c'est juste quelques lignes, même si c'est pas clair du tout. Elle les lit, elle se les approprie et elle crée une sorte de truc magnifique à partir de tout ça. C'est un plaisir de travailler avec elle parce qu'elle est enthousiaste, talentueuse, franche et elle a plein d'idées. J'en profite pour glisser à nos auditeurs lyonnais qu'il est toujours temps d'envoyer vos portraits pour participer à ce projet, lyonbd.com. Bref, Sandrine le dit et elle le crie haut et fort. Je suis super fière que Chloé soit revenue s'installer vers Lyon parce que je pense qu'on va faire de grandes choses ensemble, grandes choses en majuscules. De grandes choses, vous allez aussi certainement continuer à en faire avec l'éditrice de La Croisade des Innocents, Clotilde Vue. Dans un parcours d'éditrice, certaines rencontres effleurent et d'autres renversent. Chloé m'a renversée, c'est ce que Clotilde m'a confié. Je la cite encore, elle est sans doute l'une des auteurs qui m'a le plus époustouflée par son intelligence de l'humain, ainsi que par la justesse de son regard et de ses approches artistiques. Dans son travail, tout a intuitivement du sens. Ce qu'elle lit la nourrit et peut lui servir de terreau à un récit et implicitement à ses convictions. Pour chacun de ses ouvrages, Chloé se questionne, réfléchit, teste la technique graphique qui servira au mieux le sens de son récit. Aucun détail n'est laissé au hasard, tout est une question d'équilibre. Et Chloé est incontestablement, à mes yeux, une remarquable funambule. Remarquable funambule, forte en ping-pong et autres sports de plein air, bosseuse, discrète, humaine et autrice d'une superbe croisade des innocents. Joli bilan.
Une réaction, Chloé Cruchaudet ?
Complètement déstabilisée par...
par tant de vérité ?
Oui.
Ou par tant de mauvaise foi ?
Non. Bon, je les ai tellement humiliés au ping-pong que je pense qu'il y a des rancœurs qui ont dû rester. Mais non, j'ai l'impression d'assister à des hommages funèbres. C'est très, très touchant. Et vu que j'étais pas du tout au courant, donc je vous dis, je suis un peu déstabilisée et très heureuse de tous ces témoignages.
Bon, quelle est l'époque que vous aimez dessiner, Chloé Cruchaudet ? Je dirais les années folles de mauvais genre, ou plutôt la France médiévale de la croisade des innocents ? Vous avez déjà en tête une histoire qui se situerait dans une époque que vous voulez explorer ?
J'aime pas trop la répétition, donc j'ai exploré une partie du Moyen-Âge, une petite partie de l'entre-deux-guerres. Et là, je suis en train de faire un scénario de science-fiction, donc strictement rien à voir. Et je me rends compte à quel point c'est un travail de titan d'imaginer, de reconstituer un univers vraisemblable du futur, parce que bien évidemment, faut tout recréer, y mettre... Des questions politiques, des questions scientifiques, etc. Mais c'est passionnant. Mais donc, absolument rien à voir avec les univers que j'ai déjà explorés. Et je n'y connais strictement rien, je vous avoue, dans ces domaines-là. Donc voilà, c'est ça qui me plaît aussi.
Et enfin, Sonia disait qu'à chaque album, vous remettez en cause ce que vous avez fait auparavant pour essayer de trouver d'autres matériaux pour avancer dans votre travail. Ça prend beaucoup de temps, là. Ce temps de réflexion, une fois que vous avez l'histoire, pour savoir qu'est-ce que vous avez utilisé, comment vous allez traiter graphiquement l'histoire en cours.
Ça, c'est la meilleure partie du travail, parce qu'après, c'est quasiment un travail de moine copiste. Quand on a fait le choix de la technique et qu'on doit réaliser tout l'album de cette manière-là, mais le démarrage de recherche où on se dit... tiens, par rapport à telle émotion, quel serait l'outil le plus adapté, d'essayer, de se planter, de recommencer. Ça, c'est vraiment... j'ai pas aucun mal à me lever le matin quand j'en suis à cette période-là et à me mettre au travail. Mais cet album-là, c'est vrai que ça s'est étalé quand même sur 3-4 ans de travail. Plus long que les autres albums. Mais c'était... aussi un petit peu une ambition masochiste de ma part de faire... un groupe d'enfants qui change d'endroit à chaque page. Donc, de jamais je pouvais réutiliser les décors. Ils grandissent, ils changent. Enfin, plus jamais.
Les saisons changent.
Les saisons.
La croisade des innocents de Chloé Cruchaudet, c'est édité par Soleil dans la collection Noctambule. La semaine prochaine, vendredi prochain, des historiens autour d'Emmanuel Laurentin se pencheront sur votre bande dessinée. En attendant, merci beaucoup d'être venu nous en parler dans Le Réveil Culturel. Merci aussi à Sonia Deschamps du magazine Casemate. Le Réveil Culturel, c'est tous les matins à 6h à la radio, où on peut aussi retrouver cette émission sur franceculture.fr pour une écoute différée, c'est-à-dire une écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. À la coordination, Sophie-Catherine Gallet, à la réalisation, Vincent Abouchard, à la prise de son, Julien Doumanque. Bonne journée à lundi.